tous. J'ai envie de commencer par vous demander si vous avez fait de beaux rêves, si vous avez osé entrer dans ce monde intermédiaire dont nous avons parlé hier à la suite d'André Ruffio. André nous a entrouvert les portes, André avec d'autres bien sûr, mais nous a entrouvert les portes de ce monde, de ce monde qui est le nôtre, mais qui est aussi celui des autres, celui que nous partageons, celui que nous avons en commun, celui dans lequel nous rejoignons, nous nous retrouvons. Et bien sûr, c'est sur la base de ce que nous avons revisité hier que nous allons continuer aujourd'hui, peut-être pour aller plus loin. En effet, aujourd'hui, René Caës va intervenir pour essayer de nous permettre de comprendre un petit peu mieux les enjeux et, j'allais dire aussi, comment ça fonctionne dans ce que André nous avait proposé d'appeler le monde intermédiaire, cet espace onirique, cet espace du rêve. René Caës va donc intervenir ce matin sur le thème que je suis en train de retrouver, René. L'espace onirique commun, une alliance inconsciente. Je crois que nous connaissons tous René Caës, mais je me dois de quand même vous rappeler que René est professeur émérite, psychanalyste, membre du CEFRAF, de la SFPPG, et parmi les très nombreux ouvrages qu'il a écrits, je voudrais juste en rappeler deux, mais il y en a beaucoup plus évidemment. C'est La polyphonie du rêve. Excuse-moi, merci René. La polyphonie. C'est un oubli commun. La polyphonie du rêve, d'une part, et d'autre part, le dernier, Les alliances inconscientes. Deux ouvrages, je crois, non seulement intéressants, mais très beaux. Voilà, René, je te laisse la parole. Merci.
Merci Evelyne, bonjour. Et je remercie les organisateurs de la Société de thérapie familiale psychanalytique d'Île-de-France de m'avoir proposé de participer à votre travail, à votre rencontre, et de m'y avoir invité à l'occasion de cet hommage rendu à l'œuvre d'André Ruffio. Et sa contribution à la connaissance de l'espace psychique familial et plus précisément à ce monde intermédiaire. Gresso disait le royaume intermédiaire, ce qui était encore plus magnifique d'une certaine manière, mais c'est toujours la même idée. Qu'est-ce que le rêve transite entre plusieurs mondes? Et c'est un royaume car le rêveur est roi dans ce royaume, à moins qu'il ne devienne le porteur de toutes les turpitude de ce royaume interne qui le gouverne. La contribution d'André à la connaissance, à la fondation de la thérapie familiale analytique, vous l'avez dit sans doute plusieurs fois hier, mais je veux à mon tour le dire, est d'une importance considérable. Et pour avoir échangé avec lui pendant plusieurs années sur cette question qui nous était partiellement commune, comment se présente la réalité psychique dans ces groupes, soit les groupes artificiellement constitués, comme ceux que nous mettons en place pour les thérapies ou les analyses de groupe, ou ce type de groupe particulier qu'est la famille, mais aussi pour avoir quelquefois accompagné, quelquefois assez longuement, des collègues qui pratiquent la thérapie familiale analytique. Je peux témoigner, je crois, de la fécondité, de la qualité de ces apports, y compris ses apports dans mes propres recherches sur le rêve. Donc c'est aussi de la gratitude que j'exprime à l'égard de son œuvre, et je suis toujours très heureux de voir comment elle se prolonge parmi les personnes nombreuses qu'il a formées, et dont plusieurs sont dans cette salle et que je connais et que j'estime. Dans ce que je veux vous dire aujourd'hui, il sera question de situer mes propres recherches sur le travail du rêve et sur l'espace onirique commun et partagé dans le cadre plus général de ces espaces de réalité psychique, c'est le terme que j'aime employer, tels que nous les observons dans les dispositifs psychanalytiques de groupe. Au fond, beaucoup de choses sont parties de ce travail avec le groupe, et quand André s'est référé à l'appareil psychique groupal et aux recherches de Didier Anzieux sur le rêve, il avait en appui à son génie propre des recherches qui étaient en cours sur ces questions. Pour ma part, je voudrais dire tout d'abord que je distingue dans les groupes non pas un seul, mais plusieurs, trois espaces de réalité psychique. L'espace de la réalité psychique du groupe en tant que tel, comme André avait travaillé sur l'espace de la réalité psychique de la famille en tant que tout, en tant qu'ensemble, en tant qu'unité, en tant qu'entité, comme disait Didier Anzieux. Et un second espace qui est celui des liens intersubjectifs entre les sujets à l'intérieur d'un groupe ou d'un groupe réel, présent, mais aussi hors de ce groupe. Encore qu'il m'est toujours difficile de considérer qu'un lien puisse s'établir en dehors d'un ensemble qui le contient et qui le structure et à partir duquel il se forme. Et puis, il y a ce troisième espace qui est celui du sujet. Je dis souvent le sujet singulier, le sujet dans sa singularité, dans la singularité de son histoire, de son organisation, de ses conflits internes, qui ne sont pas superposables précisément aux autres motifs, aux autres organisations de la réalité psychique. Je rappelle brièvement que ce que j'ai proposé à la fin des années 60 sous le modèle de l'appareil psychique groupal était un modèle qui essayait d'articuler ces trois espaces du groupe, des liens intersubjectifs et du sujet singulier. Cette conception d'une pluralité d'espaces psychiques dotés chacun de formations et de processus qui leur sont propres et qui interfèrent entre eux marquait, je crois que je m'en suis rendu compte après coup, comme souvent, marquait une différence avec la conception d'un seul espace de réalité psychique, celui intrapsychique du sujet singulier, tel que la pratique de la cure individuelle en a ouvert l'accès. Et puis, ce modèle se distinguait aussi de la conception que les premiers psychanalystes de groupe avaient eux aussi du groupe comme l'espace de la réalité psychique qu'il leur importait d'explorer. Et sans cette fermeture sur un espace homogène, avec ses différences et ses processus, nous n'aurions rien su de ce qui forme la réalité psychique du groupe. Il y avait donc, comme pour Freud, la nécessité d'une clôture méthodologique, et même on pourrait dire d'une clôture épistémologique, c'est-à-dire une clôture d'un objet de connaissance bien délimité pour que le travail puisse se faire et les découvertes puissent se faire. Je pense aussi que par rapport aux propositions de Jeannine Puget, que vous connaissez également, sur les trois espaces, qu'elle dénombre également, je me différencie aussi de son approche par le fait qu'elle les considère comme superposés les uns par rapport aux autres, alors que ma conception est plutôt de penser ces espaces comme comportant des porosités, des passages. Et là, bien entendu, la problématique, le concept, non pas du moi-pot, mais des enveloppes psychiques, est tout à fait importante, mais aussi celui des espaces transitionnels, donc de la transitionnalité comme phénomène général, mais je les pense non seulement poreux, donc articulés les uns aux autres. L'un n'existe pas sans l'autre, l'espace interne n'existe pas sans son rapport aux autres espaces, et donc interférant les uns par rapport aux autres, mais surtout constitué par une réalité psychique qui est propre à ces espaces et qui ne se confond pas avec les uns avec les autres.
Alors, si je mets l'accent dès cette introduction sur ces trois espaces et sur leurs frontières et leur porosité, c'est parce que cette conception est nécessaire pour envisager, plus précisément, l'espace onirique commun et partagé. En effet, sans cette qualité des espaces interférents les uns par rapport aux autres, sans leur porosité, il ne serait pas possible de comprendre. On peut toujours l'envisager, ça a été fait bien avant nous, dès l'Antiquité, que les rêves transitaient d'un amoureux à un autre. Mais ce qui est ici en question, c'est de comprendre à quel type d'organisation psychique correspond et est nécessaire pour que leur rêve survienne dans cet espace onirique commun et partagé. Une réponse parmi d'autres, il est nécessaire que les enveloppes psychiques de chacun, on pourrait dire plus précisément de leur moi, mais du moi selon la seconde topique, c'est-à-dire du moi dans ses dimensions inconscientes, soit il est nécessaire donc que les enveloppes psychiques de chacun, les enveloppes psychiques des liens et celles de l'ensemble soient suffisamment ouvertes les unes sur les autres. Et de cela, André avait clairement la notion d'un psychisme ouvert. On verra ensuite ce qui nous a différenciés, ou en tout cas pendant un temps rapprochés, et puis ensuite fait parcourir des chemins différents. Alors André a transposé le modèle de l'appareil psychique groupal à la famille dès le début des années 80, mais il ne l'a utilisé que partiellement. Il était essentiellement centré sur, et à juste titre, comme je l'ai dit, nécessairement du point de vue épistémologique et méthodologique, sur la spécificité de la famille conçue comme un groupe, comme un tout, selon la conception de la majorité des psychanalystes de groupe de l'époque. Et c'était le schéma commun à Bion, à Fuchs, à Anzieux, pour citer enfin, quelques auteurs qui nous ont précédés. Dans ce modèle de l'appareil psychique groupal familial, il n'a pas pris en considération la pluralité des espaces de la réalité psychique. Mais il faut dire aussi que, d'un autre côté, ce modèle pluraliste n'était pas accepté par l'establishment psychanalytique de ces années-là. C'est quand même aussi important de rappeler ce qu'il était possible de proposer, ce qui était transgressif, ce qui était prise de risque, et ce qui était en même temps nécessaire d'affirmer, sinon la pluralité, en tout cas, cette spécificité de l'espace de la réalité psychique dans de l'ensemble. Même si André avait adopté ce point de vue de la pluralité, il lui était nécessaire de définir en quoi les espaces psychiques dans le groupe familial sont différents dans leur consistance et non dans leur structure de ceux du groupe de non-familiers. Plus tard, il a développé cette pensée. Et, il fallait aussi considérer quelle est la spécificité de l'espace psychique du groupe famille, ce qu'il l'a fait, et dans la mesure où il l'a inscrit au centre de ses processus et de ses formations, le complexe d'Œdipe. Plus tard, et d'une manière moins affirmée qu'il aurait pu le faire s'il avait pu continuer à travailler dans cette direction, le complexe fraternel dans ses formes archaïques et névrotique. Alors je parle de réalité psychique, donc inconsciente. Peut-être, ça peut être une facilité de langage que de parler de réalité psychique, point. Comme souvent, on se sert des concepts pour boucher un trou, comme le faisait le philosophe avec son bonnet de nuit pour combler les failles de la réalité ou du réel. Alors comment qualifier en peu de mots ce qu'est la réalité psychique ? Lorsque cette notion est utilisée par les psychanalystes qui travaillent avec les dispositifs divan fauteuil, elle désigne ce que Freud appelle la réalité psychique inconsciente du sujet singulier. C'est-à-dire que finalement, l'existence et la consistance de cette réalité psychique inconsciente, c'est l'hypothèse constitutive de la psychanalyse. Pour Freud, la réalité psychique inconsciente possède une consistance, une résistance, à l'instar de la réalité matérielle qui lui est opposable, à laquelle il l'oppose. Elle est cependant articulable à celle-ci. Lorsqu'il parle du socle biologique, c'est bien de ces deux réalités qu'il met en relation, en travail, et dont il parle comme de rocs irréductibles l'un à l'autre. Ce sont donc des réalités qui sont, sur le modèle matérialiste qui est celui de Freud, une réalité dotée d'énergie et de processus spécifiques. Je le cite, ce qui constitue la réalité psychique, ce sont les désirs inconscients ramenés à leur expression dernière et la plus vraie. Mais ce sont aussi, et ce sont donc plutôt, toutes les formations et tous les processus par lesquels l'inconscient produit ses effets. Alors quoi ? Les pulsions, les fantasmes, les identifications inconscientes, les mécanismes de défense, les symptômes, les complexes et bien sûr le rêve. Pratiquement, la réalité psychique occupe l'étendue de l'espace psychique qu'explore le travail de la cure. Et je rappelle ici que la cure a été conçue sur le modèle du rêve, j'y reviendrai un peu plus tard, le rêve étant le moyen d'accès, la voie royale d'accès à l'inconscient, et donc d'accès à la réalité psychique dans son expression dernière, pour reprendre la formule de Freud. Cependant, nous savons bien que Freud ne s'est pas limité à explorer la réalité intra-psychique. Par le moyen de l'observation, tout d'abord, il a mis la réalité intra-psychique en rapport avec des espaces psychiques homologues, celui de la mère en premier lieu. Et la théorie de l'étayage, du moins telle qu'elle m'a intéressé en relisant Freud, les textes de 1905 et les notes plus tardives, le concept de l'étayage ne concerne pas seulement l'étayage des pulsions sur les besoins corporels nécessaires à la vie, donc une formation de la réalité psychique étayée sur une formation biologique. Elle concerne aussi l'étayage du moi de l'enfant sur le moi maternel. Du moins, c'est dans ces termes de moi qu'il introduit l'idée d'un, par l'observation, là, il n'a pas pratiqué la thérapie familiale, mais l'observation et les déductions qu'il faisait à partir de la cure, l'ont conduit à envisager, dès ce moment-là, dès 1910-1915, cette idée que le concept de réalité psychique peut s'étendre à d'autres espaces, des espaces psychiques conjoints. Et tout ceci est évidemment repris, sinon d'une manière aussi explicite, du moins dans les spéculations qui forment ce qu'on a appelé la psychanalyse appliquée, mais qui est en fait une façon de poursuivre le travail d'exploration et de théorisation dans d'autres espaces par déplacement. Et là, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant du point de vue de la démarche heuristique de Freud, sa démarche de recherche et sa capacité de construire des modèles qui vont pouvoir être plus tard, après sa mort, mis en place grâce aux dispositifs inventés par plusieurs psychanalystes, mais notamment travaillé, théorisé par Fuchs et par Bion. Je mets un peu de côté le travail de Pichon-Rivière qui visait en première ligne d'autres objectifs que ceux de la thérapie par le groupe, qui visait d'abord des objectifs de formation. Mais Pichon a contribué aussi d'une manière tout à fait importante à cette mise à l'épreuve de la spéculation dont on peut lire dans Freud qu'elle est un des moyens, un des outils de la découverte et de la préparation à la mise à l'épreuve des découvertes effectuées dans le cadre de la cure. Le cadre de la cure, on pourrait dire que c'est le cadre expérimental et que, par la voie de la spéculation, il met à l'épreuve, il explore, il essaye, il transpose avec les moyens du bord avec les moyens de l'époque, considérables, avec quelques grands oublis dans ses références, bien sûr, mais bon, il ne pouvait pas tout savoir. Enfin, il ne pouvait pas tout savoir, non, mais quand il choisit Tarde et le Bon pour faire la psychologie des masses et analyse du moi, il ignore Durkheim. Et il prend le parti plutôt des conservateurs. C'est une question. C'est une question. Bon. Et cependant, c'est bien lui qui, le premier, introduit l'idée d'une psyché de groupe, d'une âme des masses. Alors, il le reprend, bien entendu, de Le Bon et de Tarde, mais qu'il l'intègre dans son discours est tout à fait intéressant, puisque ce qu'il postule, c'est qu'il y a de la psyché dans ces ensembles. C'est qu'il y a de la psyché, c'est-à-dire, il ira beaucoup plus loin que le supposer, il montrera comment ce qu'on pourrait dire aujourd'hui le travail de l'inconscient fonctionne à travers les identifications, à travers les idéaux communs, dans les groupes et dans les masses. Et quand bien même le mythe scientifique de la horde est critiqué aujourd'hui par les ethnologues, il reste que ce qu'il perçoit dans ces mythes, l'intuition profonde, demeure pour nous un instrument de travail remarquable. Bien entendu, c'est seulement à partir du moment où des dispositifs méthodologiques se mettent en place avec les dispositifs de groupe et un peu plus tard avec les thérapies familiales analytiques que vont devenir accessibles ces hypothèses nées de l'observation et née de la spéculation. Si nous admettons cette conception de la réalité psychique inconsciente, l'espace onirique et le rêve sont des productions typiques de cette réalité, comme je l'ai déjà dit. Mais la question qui nous occupe, c'est de comprendre comment le rêve se produit, comment il fonctionne et comment il devient une voie d'accès à la connaissance et au traitement de cette réalité psychique dans ces trois espaces conjoints, associés, que j'ai essayé de dégager à partir du travail avec les groupes. Avant d'explorer les propriétés de l'espace onirique dans les groupes, ce que j'ai fait dans la polyphonie du rêve, mais en travaillant également sur la polyphonie du rêve, non plus seulement dans les groupes, mais dans le cadre de la cure, je crois qu'un bref, une bref rétrospection sur l'évolution des conceptions du rêve dans la psychanalyse s'impose aussi parce que nos propres contributions, celles d'André, celles des psychanalystes de groupe qui se sont intéressés au rêve, Pontalis, notamment en France, mais aussi à l'étranger, Gordon Lawrence, avec le social dreaming, ce sont des contributions qui modifient la conception du rêve, y compris la conception du rêve dans l'espace intrapsychique. Freud a construit, vous le savez, je suis obligé de le répéter, mais brièvement, sa théorie sur le fonctionnement de l'inconscient et sur les rêves qui régissent la logique spécifique. Il a construit sa théorie à partir de son travail sur les rêves et notamment de ses propres rêves. Les concepts de condensation, de déplacement, mais aussi ajouter après l'interprétation du rêve de diffraction, de multiplication d'un élément identique, sont les concepts de base qui vont permettre de comprendre et d'entendre la logique de l'inconscient. Je reprendrai ce terme de logique de l'inconscient tout à l'heure à propos d'autres recherches, cette fois non psychanalytiques. Ce que Freud a pensé du rêve ne décrit pas, tant s'en faut, toutes les expériences oniriques dont peut rendre compte la psychanalyse. En effet, des psychanalystes ont découvert d'autres méthodes d'analyse du rêve que celles que Freud préconisait. D'autres façons de concevoir sa formation et sa fonction. Et ces changements se sont produits, comme souvent, comme presque toujours, sous l'effet conjoint des transformations de la pratique de la cure et sous l'effet des théories qui essaient d'en rendre compte ou qui les inspirent. Alors je voudrais regarder brièvement trois de ces changements. Aujourd'hui, nous ne concevons plus ou plus seulement le rêve comme une réalisation hallucinatoire du désir inconscient ni même comme la voie royale d'accès à l'inconscient. Il y a d'autres voies qui nous y conduisent. Mais le rêve reste une expérience spécifique, créatrice, réparatrice, transformatrice. Ça n'était pas inclus dans le programme freudien. Nous ne visons pas non plus une interprétation la plus exhaustive possible du rêve, comme c'était l'intention, le but de Freud, ni une traduction de son énigme. La part de l'énigme que Freud avait bien perçue dans sa théorie de l'ombilique du rêve reste entière, enfin, d'une certaine manière, ne se réduit pas. Nous accordons, en revanche, une plus grande attention à l'associativité. C'est-à-dire que nous entendons le récit du rêve comme un point de départ d'un processus associatif qui conduit à d'autres associations, à une autre scène, à un autre sens. Sans doute sommes-nous maintenant devenus familiers avec cette façon d'entendre les rêves, et surtout lorsque nous travaillons dans des dispositifs plurisubjectifs comme les groupes ou les familles. Mais il faut bien se rendre compte que pendant très longtemps, le modèle prévalent dans l'interprétation du rêve, dans la conception du rêve, était le modèle freudien. Et j'ai fait ma première analyse avec une analyste qui avait été analysée par Loewenstein. Et elle était tout à fait passionnée par le rêve. Et son but était d'aboutir à une compréhension, à épuiser d'une certaine manière toutes les associations possibles afin de donner une interprétation du rêve. Ce que, dans une seconde analyse avec un analyste d'une autre formation, je n'ai pas du tout éprouvé. Hein. La différence de génération était de 25-30 ans entre la première et le second. Ça, c'est tout à fait important. Parce que ces transformations dans la cure nous concernent aussi dans notre pratique, dans les groupes et dans les familles. Un second changement, il tient, lui, à un mouvement qui s'est produit dans le cadre de la pratique de la cure, c'est-à-dire le déplacement à l'intérieur du champ de la cure, donc de l'intérêt pour l'espace strictement intrapsychique du sujet, de l'analysant, vers l'émergence du rêve et sa fonction dans le champ transféro-contre-transférentiel. Jusque dans les années 20, Freud n'interprétait pas le rêve dans le champ de son propre contre-transfert. Il ne l'a découvert que justement dans ces années-là. Et pendant longtemps, ce qui était pris en considération, c'était seulement le transfert qui se manifestait dans le rêve, le transfert sur l'analyste et seulement sur l'analyste. Les transferts latéraux étant considérés comme résistentiels par rapport au transfert sur l'analyste, ce qu'il est dans certains cas, mais pas toujours. Alors, ce qui advient, c'est que nous sommes non seulement plus attentifs à l'adresse du rêve, ce que Freud n'envisageait pas d'une manière très nette, mais surtout, nous sommes devenus particulièrement attentifs et sensible à cette expérience, donc mieux perceptible, du phénomène des interférences entre les rêves de l'analysant et les rêves de l'analyste. Et c'est là un point tout à fait important qui concerne donc ces rêves croisés, ce passage d'un espace psychique à un autre et qui forme ces conjonctions tout à fait remarquables et cliniquement tout à fait intéressantes lorsque l'analyste rêve et s'autorise à comprendre dans le champ contre-transfert ou transférentiel ce qui est organisateur de la résistance, du conflit, du désir inconscient de l'analysant. Et on pourrait dire que réciproquement, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma conduite de cure, réciproquement, le rêve d'un analysant, d'une analysante, mobilise chez l'analyste au plus vif des éléments de son les formations de sa propre configuration de la réalité psychique, sa propre configuration inconsciente, va lui permettre d'ouvrir là aussi d'autres voies de l'interprétation. Ces rêves font davantage que se répondre. C'est trop descriptif de dire qu'ils se croisent, de dire qu'ils interfèrent. Ce qu'il convient de dire, en tout cas c'est ce que je soutiens, c'est qu'ils construisent un espace onirique commun et partagé et qu'ils se construisent dans cet espace onirique commun et partagé. Il y a là quelque chose qui fonctionnerait comme une matrice intersubjective du rêve qui qualifie plus précisément les mouvements transféro-contre-transférentiels et qui non seulement les qualifie, mais qui en est en quelque sorte, je le dirai un peu plus tard, le second ombilique du rêve, le second espace où se construit le rêve. Ce troisième changement qui survient dans la conception du rêve, il est en rapport plus précis avec l'objet de notre propos d'aujourd'hui. Les dispositifs psychanalytiques qui mettent en travail psychique plusieurs sujets ont permis de dégager de nouvelles vues sur les limites de l'espace intrapsychique, comme je le disais tout à l'heure, en l'ouvrant davantage sur ses bords, sur ses interférences avec les autres espaces psychiques. Cette orientation a introduit le rêve dans cet espace onirique interpsychique dont la découverte commence à se faire dans le cadre de la cure analytique. Nous devons à Bion, nous devons à Winnicott, nous devons à Messer, trois au moins de ceux-là, parmi ces psychanalystes, nous leur devons nous avoir ouvert la voie en montrant que la fonction onirique, le holding onirique cher à André, la capacité de rêver, la capacité de la rêverie maternelle s'inscrivent dans les liens premiers, dans l'activité de la fonction alpha, en prenant Bion, exercée par l'environnement maternel. Je dis bien l'environnement maternel car ça n'est pas seulement la mère en tant que telle qui est porteuse de cette fonction. C'est l'environnement maternel, l'environnement dans ce qu'il comporte comme caractéristique maternelle. Dans la capacité onirique, donc, et j'introduis cette notion de capacité onirique d'un autre et de plus d'un autre. Cette capacité est une condition essentielle, cette capacité onirique partagée est une condition essentielle du rêve, du récit qui en est fait dans un groupe, dans une famille ou dans des couples, et ces rêves portent la marque de fabrique de cette capacité onirique commune et partagée. L'analyse des rêves produits en groupe, dont le récit est fait en groupe, a été un des chantiers dont j'ai tiré quelques questions pour revisiter la théorie du rêve produite à partir de la seule situation de la cure. Le travail d'Anzieux, dont je vais parler, a été pour nous extrêmement important. C'est un travail qui date de 65-66. Et à partir de là, s'est mis en place une double lecture, à partir de là, peut-être moins chez Anzieux que dans mes propres travaux, nous en discutions beaucoup, une double approche et une double lecture du rêve se sont mis en place. Tout d'abord, j'ai continué, et je me différenciais d'Anzieux de ce point de vue, à entendre, à comprendre, essayer de comprendre le rêve dans les groupes comme la production d'un rêveur singulier. À l'intérieur de son propre espace de réalité psychique. La formule « le groupe rêve » ne me convient pas. Elle me paraît inexacte. Il y a, qu'il y ait du rêve dans le groupe, oui. Mais que le groupe rêve, c'est là encore des formules qui vont trop vite et qui empêchent d'analyser plus précisément en quoi le rêve survient dans le groupe, comment le rêve se produit dans le groupe. Faire du groupe un producteur du rêve, oui, mais à quelles conditions? Voilà, je me mettais donc en suspens en disant que cette formule ne me convenait pas, qu'elle ne me paraissait pas tout à fait exacte, et surtout, elle occultait ce fait que personnellement je maintiens, et que nous tenons de Freud, que le rêve est une création individuelle égoïste, à entendre, comme les latinistes l'entendent, une formation, une création individuelle du moi singulier. C'est pas le groupe qui rêve, c'est moi qui rêve dans le groupe. Et si je rêve dans le groupe, c'est en rapport avec mon espace interne et l'espace proprement psychique du groupe. L'étude des conditions internes de production du rêve, de ses processus, de ses contenus, de son sens, m'a montré, ce que je viens d'annoncer précédemment, que le rêve est profondément tissé dans l'intersubjectivité, plus largement dans un espace onirique commun et partagé, où le rêve se fabrique, où il est rêvé, où il se partage, notamment dans le récit, qui en est fait à d'autres, et pas seulement à l'analyste. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait important à prendre en considération. Le rêve se forme avec le commerce, l'échange psychique entre les espaces des autres, de l'ensemble, de certains d'entre eux, et il ne s'adresse pas seulement à l'analyste, il s'adresse aussi aux autres membres du groupe, aux autres membres de la famille. Cette seconde approche s'intéresse donc à cet espace onirique commun et partagé. Alors, la question du rêve dans les groupes, comment est-ce qu'elle a été abordée ? Cette idée d'un espace onirique commun et partagé à plusieurs rêveurs signifie que chaque rêveur rêve, je reprends, je ne sais plus à qui je dois cette expression, du carrefour, mais enfin peut-être à Sophocle, au fond, au carrefour de plusieurs fabriques de rêves, dans l'espace d'une pluralité de rêveurs, dont les rêves traversent les rêves de chacun. Et c'est ce que nous pouvons entendre d'une oreille groupale dans les groupes, dans les familles, mais aussi dans la cure. C'est ce que nous apprend plus particulièrement la clinique des dispositifs plurisubjectifs. Et, de mon point de vue, l'apport décisif d'André a été d'introduire la notion de holding familial comme justement ce point de co-étayage qui concerne à la fois la capacité de contenir, mais aussi de soutenir la formation du rêve. C'est un concept extrêmement intéressant et qui, en plus, fait lien avec les recherches de Winnicott sur l'espace transitionnel. Il a considéré le rêve comme la voie d'accès à cette réalité inconsciente qui s'est constituée dans ce groupe spécifique qui se reconstitue dans le dispositif de la thérapie familiale analytique sur le mode de ce que Evin Grandjean appelait le néogroupe. Ça n'est pas seulement le rêve familial, c'est le rêve dans la famille, dans la situation analytique de thérapie familiale. Ça, c'est tout à fait important de faire la différence parce que ces récits ne viennent, ces contenus ne viennent que dans ce cadre-là et dans les mouvements transférentiels qui s'y développent. Mais ça, bon, je pense que vous le savez, d'expérience, et sans doute pour l'avoir entendu rappeler hier. Cette notion de berceau onirique familial, qu'on lui doit, je pense, décrit bien cette matrice, ce rapport des rêves rêvés par un autre rêveur, initialement par la fonction maternelle, dans la famille et rapporté en séance. La méthode de la coprésence d'au moins deux générations, en présence de plusieurs thérapeutes, lui a permis de prendre en considération la spécificité de ce qui transite de la vie et de la mort psychique dans le cadre de la famille, à travers notamment les formations du rêve. Dans un groupe, quelqu'un rêve. Il en fait le récit, qu'il adresse à d'autres. Et le récit de ce rêve suscite des mouvements psychiques divers chez les membres du groupe, Pour certains, il ouvre la voie à d'autres associations. Pour d'autres, il les referme, selon le modèle freudien du commutateur électrique qui tantôt fraye une ouverture, tantôt la ferme. C'est cela le processus, la caractéristique typique de l'associativité dans les groupes. C'est aussi celui qui fonctionne dans la famille. Ce récit suscite donc des mouvements divers. On en parle, on associe, on le rejette, on le passe sous silence, on associe avec un autre rêve, et c'est ainsi que se met en œuvre un processus associatif interdiscursif qui fait que le discours qui se produit est à la fois repérable comme le discours de chaque un, comme disait André Misnard, de chaque sujet, et aussi un discours qui est fait de l'ensemble des associations et de l'ensemble des occurrences discursives. Un processus donc interdiscursif que je vais qualifier comme polyphonique. Je vais dire en quoi tissé dans les modalités, dans les contenus des transferts, dans des résistances, dans des mouvements de refoulement, dans le meilleur des cas, mais qui ouvre aussi à des représentations jusqu'alors, à des représentations, à des signifiants, à des affects, jusqu'alors inaccessibles et auxquels le travail des associations a frayé une voie jusqu'au préconscient. Et sur le travail du préconscient dans les groupes en rapport avec le rêve, le récit du rêve et le travail associatif, j'ai effectué un certain nombre de recherches. Et ce serait peut-être intéressant de reprendre, selon les modalités propres de ce qui se passe dans les thérapies familiales analytiques, que ce qui concerne la mise en œuvre du préconscient. Il y a là peut-être un travail. L'espace psychique des groupes est un espace onirique. Voilà encore une autre proposition que le travail avec les groupes nous a apportée. Il est fondamentalement un espace onirique. Et cette proposition, nous la devons à Didier Anzieux, thèse énoncée en 1966, publiée plutôt en 1966, mais formulée dès les années 64-65, en même temps que Pontalis développait ses propres recherches sur le travail du rêve dans les groupes. Alors, la notion introduite par Anzieux, c'est celle d'une analogie entre le groupe et le rêve. Analogie, ça ne veut pas dire identité. Et on traduit le groupe, c'est le rêve. Il dit le groupe est comme un rêve. L'analogie, la métaphore, lui permet de dire en quoi c'est comme un rêve et en quoi c'est différent d'un rêve. C'est comme un rêve parce que les processus de réalisation, de moyens de réalisation hallucinatoire ou imaginaire, disait-il, des désirs inconscients est à l'œuvre dans les groupes. Le groupe est comme le rêve, le moyen de réalisation de désirs et le lieu de réalisation de ces désirs inconscients, de ses membres. Ce sont des désirs infantiles, des désirs de la veille, qui se réalisent dans les groupes, disait Anzieux. Les sujets humains, cette phrase est devenue célèbre, souvent citée, les sujets humains vont à des groupes de la même façon que dans leur sommeil, ils entrent en rêve. Le mouvement de la phrase est en outre très beau. Et ce modèle du rêve comme réalisation imaginaire de désirs inconscients va conduire Anzieux à considérer que les phénomènes qui se présentent dans les groupes s'apparentent à des contenus manifestes et qu'ils dérivent d'un nombre limité de contenus latents. Les processus primaires sont déterminants. Anzieux tire de cette analogie et de l'hypothèse qui en résulte deux conséquences. Le groupe, qu'il accomplisse sa tâche, quelle qu'elle soit, hein, y compris d'analyse, et qu'il l'accomplisse efficacement, ou qu'il soit paralysé, c'est toujours un fantasme avec un débat avec un fantasme sous-jacent. Deuxièmement, comme le rêve, le symptôme, le groupe, et l'association de désirs inconscients et de défense contre l'angoisse que suscite dans le moi des participants
de tels accomplissements de désir. Cette thèse nous permet de comprendre qu'il existe effectivement une analogie de structure entre le groupe et le rêve, et que leur espace psychique, s'ils sont homologues, ne sont pas superposables. J'ai fait une erreur là, puisque j'ai écrit le contraire. Le groupe et le rêve, sous des formes diverses, sont des espaces de l'imaginaire onirique. Ça, c'était son grand, la grande ligne de pensée dans les yeux. Voilà une autre source de la connaissance de l'inconscient, des effets de l'inconscient, des formations de l'inconscient telles qu'ils se produisent en groupe, et le rêve n'est pas la seule voie d'accès à la connaissance de l'inconscient. D'où ce débat dont il faut que nous prenions conscience, qu'il y a là un sérieux problème épistémologique au sein de la psychanalyse à partir du moment où on change les conditions dans lesquelles l'accès à l'inconscient s'effectue. C'est un problème qui est très peu travaillé et qui, en tout cas, nourrit encore aujourd'hui beaucoup de, sinon de réticence, il y en a encore quelques irréductibles, mais en tout cas beaucoup de résistance à considérer que le travail psychanalytique qui s'effectue dans ces dispositifs est un travail psychanalytique, c'est-à-dire qu'il a comme objet la connaissance et le traitement de l'inconscient dans sa conflictualité, dans sa souffrance, etc. Ce qui est chez Anzieu peut-être se limite dans cette conception, c'est une analyse plus précise de la position de l'espace psychique du rêve dans le groupe, et pas seulement cette analogie qui donne des indications sur les processus inconscients dans le groupe, car au fond sa thèse aboutit à ça. Elle vise essentiellement à mettre en évidence que ce que nous pouvons repérer dans le rêve, mais nous pourrions le repérer aussi dans d'autres formations, s'applique au groupe. Alors, la limite, ou plutôt la zone de débat que nous avions, c'est, mais le rêveur, lui, et l'espace psychique du rêveur, qu'est-ce qu'il devient dans le groupe? C'est-à-dire, le rêve, comme modèle analogique de l'espace de réalité psychique du groupe, oui, mais ça n'annule pas, ça ne résout pas la question de la position du rêveur et de la spécificité des conditions dans lesquelles le rêve apparaît dans le groupe. Bon, alors, c'est sur ce débat que je me suis engagé plus précisément dans les recherches sur le rêve dans les groupes. J'ai essayé de distinguer plusieurs fonctions du rêve dans les groupes. C'est comme ça que j'ai commencé, par décrire des fonctions. Une fonction de retour du refoulé dans une figuration. Mais quel refoulé? Le refoulé de qui? On va poser la question. Mais dans une figuration qui soit acceptable par le préconscient du rêveur. Cette figuration est proposée au groupe dans le récit du rêve. Elle a donc aussi une fonction, ce retour du refoulé, une fonction dans le groupe. Le récit du rêve et les associations des membres du groupe font émerger des signifiants, comme je le disais, jusqu'alors indisponible pour d'autres membres du groupe, est devenu, pour certains d'entre eux, réutilisable, réinvestissable, réinvesti. Deuxièmement, une fonction, là je partage, j'ai en commun avec André de considérer que le rêve accomplit une fonction d'étayage. Mais je précise de conteneur. En associant la fonction du contenant associé à l'étayage à la fonction de transformation que le groupe accomplit. Conteneur dans la mesure où le rêve traite ce qui dans le groupe concerne des pensées et des affects inconscients, traite des restes diurnes
constitués au cours de séances précédentes, porteurs de significations, des restes demeurés inconscients, en stase, chargés d'investissements pulsionnels réprimés la veille. Le rêve est un outil, est un dispositif de travail. Le rêve, donc, comme le groupe, est un espace psychique dans lequel se produisent des effets de contenance, de transformation, pour le rêveur et pour le groupe. Dans le groupe, c'est ce que Francesco Corrao a appelé la fonction gamma, par analogie à la fonction alpha pour l'individu, et cette fonction est une création des membres du groupe. Elle soutient la fonction conteneur et tout le travail de l'étayage. Lorsqu'il est impossible de recourir à cette fonction conteneur du groupe, le rêveur fait alors une autre tentative pour trouver un conteneur, soit, comme Pontalis et Masoud Khan l'ont montré, en produisant un acting, ou comme Racamier le disait, en rêvant dehors, ou en apportant un objet externe réel, comme Robbie Friedman, notre collègue israélien, l'a bien montré. Une autre fonction est une fonction de représentation scénarisée, dramatique, dramatisée de l'appareil psychique groupal. Justement, l'intérêt pour le rêve était lié à cette travail sur ce modèle d'appareil psychique groupal. Une question que je me suis posée est de savoir quel emplacement privilégié le rêveur occupe dans l'espace psychique du groupe, dans sa topique, dans ce qu'on peut décrire comme sa dynamique et son économie, dans les transferts. Comment le porte-rêve est à la fois un rêveur égoïste et en même temps un rêveur qui rêve ce qui n'est pas signifié par d'autres moyens, par les membres du groupe, et qui a à voir avec ce qui est dans le groupe une question restée en suspens dans les limbes, d'une certaine manière, des restes diurnes. Celui qui ou celle qui accomplit cette fonction euphorique est donc bien à la jonction, comme ceux qui accomplissent toutes les autres fonctions euphoriques, à la jonction entre ces deux espaces, au moins celui qui lui est propre, celui d'un autre ou de plus d'un autre, et d'un ensemble. Une autre question relative à la représentation que le groupe apporte, elle a trait, celle-ci, à ce qui, dans le rêve, relève, dans le récit du rêve formé en groupe, relève des conditions qui relèvent de l'organisation sociale et culturelle. Les rêves charrient ainsi des représentations, de la même manière que les groupes forment des représentations de type social et culturel qui forment des étayages à la pensée du rêve, à la venue du rêve. Ceci est connu depuis l'Antiquité. Dans l'Antiquité, les rêves par les thérapies par le rêve, qui étaient déjà connues dans l'Antiquité grecque et romaine, étaient interprétées par rapport au mythe. C'est le mythe qui était la clé d'interprétation du rêve. Ça nous dit quelque chose sur la façon dont d'autres aspects plus singuliers du rêve étaient occultés, mais ça nous interroge aussi sur la façon dont les rêves portent les traces de ces formations. Je me suis intéressé, au moment de l'appareil psychique groupal, à la position mythopoïétique et à la mythopoïèse, et André a relancé ce travail sur la fonction mythopoïétique de la famille. Là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on était tout à fait sur la même longueur d'onde, mais peu importe, la fécondité de sa pensée témoigne de l'intérêt d'avoir introduit cette notion. Enfin, autre fonction, une fonction évacuative du rêve. Ça, elle est moins prise en considération. Pourtant, aussi bien Bion que Friedman ou Gaburi en Italie ou Marcos Bernard en Argentine ont travaillé sur cette fonction évacuative qui consiste à se débarrasser du désir par le rêve, plutôt que d'élaborer les désirs qui souhaitent se réaliser. Et ce que Melser a théorisé dans la cure comme le Saint-Toilette s'applique aussi au groupe, et la fonction de certains rêves et participe à cette fonction de Saint-Toilette. Bon, on pourrait ici parler des rêves profus, des rêves en avalanche, des rêves qui se succèdent les uns les autres sans que aucune élaboration, le temps d'aucune élaboration ne soit possible, et qui ont précisément cette fonction évacuative, et donc une fonction défensive. Je termine maintenant sur les hypothèses que j'ai formulées sur le rêve. Et celle d'un espace onirique commun et partagé entre plusieurs rêveurs. Là, je crois que j'en ai déjà beaucoup parlé. Et celle donc d'une étoffe onirique du groupe, étoffe au sens de, allemand du terme Stoffe, un matériau, une matière onirique du groupe. Là-dessus, les recherches d'Anzieux, celles d'André, les miennes convergent pour penser cela. Chacun est donc relié à cette matière, à cette étoffe onirique dont le groupe est tissé. Deuxième proposition, celle des deux ombiliques du rêve. La première hypothèse sur l'ombilique du rêve est celle que Freud formule en disant que, je le cite, « Dans les rêves les mieux interprétés, on doit souvent laisser un endroit dans l'ombre parce que l'on remarque à l'interprétation qu'il y a là, la traduction française dit un enchevêtrement, le terme allemand c'est Knauel, ça veut dire une pelote, quelque chose qui est, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus concret, et une pelote donc de pensée du rêve qui ne saurait se défaire, mais qui n'apporte aucune contribution supplémentaire au contenu du rêve. Bon. C'est l'ombilique du rêve, dit-il, l'endroit où le rêve repose sur l'inconnu. Les pensées du rêve auxquelles on a accès par l'interprétation doivent demeurer d'une manière générale sans clôture, à partir de tous côtés dans le réseau, et partir de tous côtés dans le réseau embrouillé du monde de nos pensées. Alors, on voit, parenthèse, on voit ici combien l'acharnement à trouver des associations exhaustives bute dans ce souci de maîtrise contre cette énigme, cet ombilique du rêve. D'un endroit plus dense de ce réseau surgit le désir du rêve comme le champignon de son mycélium. Moi qui suis un amateur de recherche de champignons, je cherche toujours le rêve dans la queue, pas dans le chapeau du rêve. Freud ne reviendra jamais sur cette façon de dire que l'interprétation est infinie, puisqu'en dernière analyse, cet irréductible ombilique du rêve, bon, il ne reviendra jamais sur cette façon de dire, mais il fera autrement. Bon, ça peut arriver, bien. Et puisqu'en dernière analyse, cet irréductible ombilique du rêve, qui demeure dans l'ombre, met en échec cette interprétation exhaustive du rêve. Il montre aussi que ce qui, dans le désir du rêve, le rêve comme objet de désir, surgit du plus profond de l'inconscient, est ancré dans cette expérience corporelle. Et l'ombilique du rêve est à son socle dans le corporel. Et c'est dans ce conduit, c'est un autre terme freudien, dans ce lieu de passage, de transformation que se forme le tissu, où se mêlent l'intérieur et l'extérieur, l'appropriation et la suggestion, l'actif et le passif. Alors, il m'a semblé que ce premier ombilique du rêve décrit parfaitement ce qu'il en est quant à l'organisation de l'espace onirique interne. Sauf que c'est incomplet. Je suis désolé, mais je trouve qu'on peut le dire aussi comme ça. Et qu'il faut un second ombilique du rêve. Ce second ombilique du rêve, c'est d'une certaine manière celui que commence à énoncer Bion. C'est la capacité onirique de l'autre, c'est la capacité de rêverie de la mère, c'est tout cet ensemble, ces conditions intersubjectives sans lesquelles le rêve ne peut pas se produire. Nous ne pouvons pas rêver si d'abord nous non seulement nous avons été rêvés, mais si d'autres rêvent ce que nous ne parvenons pas encore à transformer dans des rêves qui ne soient pas des cauchemars ou qui ne soient pas destructeurs de l'appareil psychique. Cette second ombilique du rêve, intersubjectif, complexifie le processus de la fabrique du rêve. Et ce processus d'oniropoïèse, de fabrique du rêve, est proche précisément de ce que nous apprend la mythopoïèse, c'est-à-dire la capacité. Nous ne pouvons pas fabriquer des mythes tout seuls, y compris le mythe du névrosé. Nous le travaillons à partir des emprunts que nous faisons au fond commun de la culture. Et ça, Lacan l'avait bien vu dans son discours de Rome. Alors, la polyphonie du rêve, c'est la troisième hypothèse. Le rêve est fait de plusieurs discours, de plusieurs espaces, de plusieurs écritures. Et je passe ici sur l'apport de Bakhtin, qui pour moi a été tout à fait important. Et je termine par une hypothèse que je réserve, que je suis en train d'explorer, que je n'avais pas exploré suffisamment jusqu'à présent, qui est le rapport entre l'espace onirique commun et les alliances inconscientes. Alors, c'est donc une ouverture et non pas une conclusion. Dans les alliances inconscientes et dans la problématique du rêve telle que j'ai essayé de l'esquisser, nous avons affaire au même problème. Au même problème. Réponses différentes. Comment s'articule, comment se transforme dans l'espace psychique d'un sujet et dans l'espace des espaces et dans celui des espaces communs et partagés, des liens, des groupes. Et comment ces espaces s'articulent-ils et se transforment-ils? De la même manière, comment se nouent les liens entre les sujets du point de vue de la réalité psychique qui se forme entre eux et par eux, c'est-à-dire comme l'espace onirique commun, comment se forme le lien qui fabrique cet espace? Alors, l'analyse des alliances inconscientes m'a enseigné que chacun d'entre nous a besoin de l'autre, sinon de plus d'un autre, pour réaliser ceux de ses désirs inconscients qui sont irréalisables sans le concours d'un autre. Que l'accord qui en résulte, l'accord qui résulte pour cette réalisation conjointe, demeure le plus souvent inconscient. Inconscient au sens qualificatif du terme. Je réserve à un autre débat le fait qu'il s'agit bien aussi de la formation de l'inconscient en tant qu'instance, en tant qu'organisation topique. Le rêve instaure une alliance inconsciente. Le rêve commun et partagé instaure une alliance inconsciente pour former cette matrice commune du rêve de chacun. Il s'agit ici du désir de rêve, du désir de rêver ensemble. Il s'agit d'un désir et qui produit un rêve et qui le produit en sollicitant précisément chez l'autre l'appel vers le rêver, vers la production de rêve. Le rêve, je dirais donc, est produit. Il est produit et il est sollicité en même temps, pas seulement le résultat, c'est aussi le processus de sollicitation comme moyen de médiation entre les psychés, comme appel adressé à l'autre pour qu'il rêve un rêve qui s'adresse à moi ou à nous. Cela, je l'ai repéré aussi bien dans la cure, je parlais tout à l'heure des rêves croisés, des rêves conjoints, de l'analyste et de l'analysant, cet appel à rêver, c'était aussi une indication technique d'André, cet appel à rêver est une incitation à créer cet espace onirique commun. Il se produit donc dans des mouvements transféro-contre-transférentiels. Et il crée une alliance entre le rêveur, entre les rêveurs, entre le rêveur qui appelle et le rêveur qui va rêver en réponse à cet appel. Le rêve produit est un rêve qui fait que je rêve à lui ou à elle, pour lui ou pour elle, et pour nous. Tel est le rêve des amoureux, tel est celui que rêve le porte-rêve dans sa fonction thérapeutique. tel est aussi l'espace onirique conjoint du thérapeute et de son patient ou de ses patients. Alors le rêve qui surgit ainsi, dans l'espace onirique commun et partagé, accomplit plusieurs des fonctions qui participent, qui sont aussi celles des alliances inconscientes. Il est, ce rêve, à la fois une voie et une forme du retour du refoulé commun, du refoulé conjoint, qui s'est constitué dans les premiers pactes de refoulement, pactes des négatifs, scellés entre la mère et l'enfant. Ce que Pierre Aulagnier avait défini comme le co-refoulement. Ces pactes défensifs ont une phase structurante. Il est important que se produise ce co-refoulement pour ce que se constitue l'espace psychique de l'enfant. Et c'est un... Ils ont une phase structurante car ils contribuent à former la structure encadrante, accomplit le co-refoulement, structure nécessaire pour que la séduction incestuelle soit évitée. Ce sont les contenus de ce refoulé conjoint qui font retour dans l'espace onirique commun. Ils sont à la fois masqués par le travail du rêve, mais ils réalisent en même temps sur le mode imaginaire des désirs incestueux refoulés. Être ensemble dans le même berceau, dans le même lit onirique. Alors c'est tout à fait important car qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sollicitons l'appel à rêver ? Quelle alliance, quel type d'alliance mettons-nous en œuvre ? Retrouver cette matrice, la matrice de ce que André a justement nommé, le berceau onirique. Mais on le sait bien, aucun berceau n'est innocent. Voilà, merci.
Merci, René Caes, pour ce bel exposé. Merci pour tous les rappels, toute cette trajectoire que tu nous as permis de suivre, tout ce chemin que tu nous as permis de suivre, tous ces chemins croisés, je dirais, que tu nous as permis de suivre. Et merci aussi pour cette vaste ouverture que tu nous proposes à la fin, en nous laissant sur notre fin. Parce que c'est vrai que je crois que s'ouvre là un immense chantier, si je peux me permettre de dire comme ça, de travail. Et je sais combien tu l'as déjà largement commencé, mais aussi la question des alliances inconscientes. Combien cela, il y a encore un énorme travail de réflexion, de pensée, de recherche à faire dans ce domaine, mais aussi combien cette question est importante pour les thérapeutes familiaux psychanalytiques. Je crois que nous avons là aussi un outil théorique fondamental pour pouvoir comprendre la question des processus et de ce qui se passe dans la cure de thérapie familiale analytique. Ça me paraît vraiment tout à fait essentiel pour ma part. Et je crois que beaucoup de questions foisonnent juste au moment où tu t'interromps. Et évidemment, moi, il y en a une que j'ai en tête, c'est que... Dans ce mycélium groupal et dans ces alliances inconscientes du côté familial, mais aussi celles que l'on noue dans le néo-groupe, hein, dans lesquelles nous sommes aussi impliqués, qu'en est-il de ce mycélium ? Qu'en est-il de ce qui appartient à la famille et de ce qui nous appartient, qui se noue, qui s'allie là, qui se lie là ? Toute la question du transgénérationnel est posée, puisqu'elle fait partie de ce que... Bon, je reprends cette expression. Elle fait partie de ce mycélium commun familial, mais aussi qui est repris et mis en jeu dans le travail analytique familial, groupal familial. Voilà, donc là, je crois qu'on a un très, très grand chantier de travail, mais je vais tout de suite laisser la parole à Christine... Christine Leprince, qui doit donc poser quelques questions, discuter hein, sur le travail qu'a proposé René. Christine Leprince est psychologue, psychanalyste, fait partie de la SPP, de la PIF, enfin de l'association de Paris, de la IPCF. Christine, je te laisse la parole.
Merci. Vous vous en doutez bien, René Caes, vous m'avez fait beaucoup travailler. Je pense qu'effectivement, la richesse de cet exposé ne vous a pas échappé et je n'ai pas la prétention de résumer tout ça. Et il va falloir qu'on active ensemble nos modulateurs, si j'ai bien retenu la leçon de M. Tassin, pour pouvoir trier et nous-mêmes penser quelque chose de pointu. Alors moi, j'avais quelques questions. Je pense que vu l'heure, bon, je vais essayer de nous aider tous à rebondir. Ce que je trouve tout à fait passionnant depuis des années qu'on suit votre pensée, c'est d'abord, je le dis parce que je suis moi-même très touchée de cette transmission à travers la littérature analytique de tous ces grands penseurs qu'on a pu croiser les uns et les autres, et le fait que vous insistiez sur la pensée, bien sûr, de Ruffio qui nous réunit tous, et aussi de Didier Anzieux, puisque je l'ai eu comme superviseur, comme dans un lien très, très précieux. Et justement, cette polyphonie, on pourrait dire aussi, de ce travail psychique que nous faisons à travers nos attachements théoriques, est tout à fait précieux à travers les sociétés et les recherches. Alors justement, pour en venir à la question, parce que j'avais juste deux, trois questions, mais on ne pourra pas, évidemment, peut-être les approfondir, c'est parce que vous l'avez déjà bien éclairci, c'était la question, finalement, du transfert et dans, justement, ce qu'elle implique dans les groupes, et notamment dans le groupe famille, qui est encore plus complexe, peut-être, que les groupes de formation, puisqu'on a plusieurs groupes, hein. On a le couple, le groupe, la fratrie et le néo-groupe, avec justement ce qui s'ouvre de la présence de nos autres groupes psychiques de thérapeutes. Donc cette complexité, elle est là à sans arrêt penser pour ce que vous nous avez dit aujourd'hui, de ne pas la réduire que seulement à une espèce d'objet groupe fétichisé, quoi, quelque chose comme ça. Alors cette polyphonie, à mon avis, le lien tout à fait passionnant, et je pense aux exposés que les uns et les autres vous avez pu entendre dans les ateliers, et à la richesse aussi de l'exposé de Christiane Joubert, là, sur les rêves croisés, c'est-à-dire qu'est-ce que cette question du transfert et de l'écoute polyphonique de l'analyste, ou des analystes, puisque justement, souvent dans les groupes, la spécificité, c'est qu'il y ait plusieurs analystes, donc déjà plusieurs psychés, ce qui me paraît tout à fait important dans ce travail de mise en réactivité psychique, hein, d'ouverture. C'est le croisement avec aussi ce que vous avez appelé, vous avez moins insisté là, mais je l'ai repris de votre livre, La polyphonie du rêve, c'est-à-dire sur les accros aussi, les défaillances de cette matrice psychique, groupale, familiale, quand il y a des accros. Comment effectivement ce négatif est aussi aspirateur d'une capacité de création ou pas dans sa partie défensive de l'analyste, enfin de l'interne de l'analyste. Autrement dit, comment relier transfert, capacité polyphonique interne, créatrice, transformatrice de l'appareil psychique des psychanalystes avec aussi les traumas de cette matrice sans lesquels l'appel au rêve pourrait être très défensif. Ça, c'était une question par rapport justement à toute cette richesse clinique qu'on a entendue aussi peut-être dans les ateliers et à partir des cas cliniques d'hier. Ça, c'est une question, je trouve, très, très, très importante. Et pour revenir à la spécificité de la famille, j'aurais bien voulu vous questionner justement sur... En quoi, j'ai aucune prétention d'avoir moi-même analysé toute cette complexité, mais en quoi le couple qui est à l'intérieur de ce groupe, le couple sexuel familial qui est à l'origine de la famille, dans le fond le couple des parents, a quelque chose de spécifique peut-être par rapport à cette excitation sexuelle transformable. Alors, en quoi en rêve, en défense, en tout un tas d'alliances, mais qu'il y a peut-être là quelque chose de spécifique au groupe que nous avons dans les groupes de formation ou d'autres groupes qui ne sont pas la famille, justement, où ce groupe couple, quelle fonction a-t-il de spécifique? Et est-ce que ça se joue justement sur l'entrecroisement de ce que vous avez bien explicité, de tout ce qui est la matière des fantasmes originaires, de l'Œdipe, des complexes de la fratrie, qu'il faut qu'on puisse nous entendre dans cette multiplicité de réactivité. Moi, je ne sais pas si c'est un concept, mais l'idée de réactivité psychique est tout à fait importante là dans votre travail. Et peut-être que dans les autres groupes, on a plus affaire à des soubassements inconscients, plus liés justement à la mythopoïèse, peut-être, enfin à la terreur de faire groupe. Je pense à cette transmission hallucinatoire dans les groupes qu'on voit dans les formations ou au psychodrame, hein, où se transmet de génération en génération de groupes, par exemple psychodramatiques, des hallucinations, des fantasmes, un travail à travers les jeux, qui est un dépôt comme ça très archaïque sur la horde sauvage, sur la peur de la destruction, ou bien sûr de l'orgie, mais enfin, quelque chose de spécifique qui a encore peut-être autour de la famille, et de cette importance de ce couple, de ce groupe couple à l'intérieur du... Ça, c'était ma deuxième question. Et puis, ce que vous... Non, je le dis parce qu'après, je laisserai les autres, mais ça m'intéressait pour faire deux, trois trames dans notre richesse. Tout ce qui est effectivement de l'ordre des références culturelles dans la famille. Parce que culturel, ça peut être comme dans l'atelier que j'ai écouté hier, les questions effectivement sur le style de la famille, sa façon de manger, de s'habiller, des références culturelles qui peuvent être aussi des appels à rêverie. Quand il y a effectivement par ailleurs des accros, des trous et des traumatismes. Voilà, c'était les trois axes de questions.
Est-ce que je peux te demander de répondre? Bref, parce que nous sommes impérativement limités au point de vue.
Je sais que j'ai débordé, je m'en excuse auprès de vous et auprès de vous notamment. Je commencerai peut-être par envisager la deuxième question que vous avez posée parce qu'elle a à voir avec la première plus directement. Et oui, dans un des premiers textes que je vous avais envoyé, que j'ai réduit pour aujourd'hui, je distinguais, il me semblait, les espaces psychiques de la famille comme beaucoup plus complexes que ceux que nous observons dans les groupes, puisqu'il y a à l'origine de la famille, oui, il y a bien le couple sexuel et tout ce qui s'organise comme représentation fantasmatique de l'origine sexuelle, éventuellement d'évitement de la sexualité dans par rapport à ce groupement, qui prend un autre statut lorsque les enfants arrivent, donc la fratrie se constitue, même si elle est constituée d'un seul enfant, puisque c'est ce groupe-là qui va constituer le couple sexuel en couple parental. Donc il y a déjà là quelque chose de tout à fait spécifique que nous ne connaissons pas dans les groupes. Alors donc, voilà, le couple, le groupe, enfin l'ensemble, le sous-ensemble couple devenant parent, puisqu'on sont là, formant un autre groupe, la fratrie formant encore un autre groupe, mais il y a aussi les collatéraux qui font partie de la famille élargie, c'est un autre groupe. Et les transformations de la collatéralité prennent des allures très particulières dans les transformations assujetties aux transformations sociales, culturelles de la famille. Vous avez beaucoup travaillé aussi collectivement sur ces nouvelles configurations de famille, de la famille, la notion mérite d'être interrogée. Qu'est-ce qui reste du noyau constitutif du familial à travers ces transformations culturelles et sociales et historiques? Alors, bien entendu, c'est le couple sexuel dans la famille est un couple qui mobilise une excitation spécifique. Nous en retrouvons des éléments dans les transferts de transferts, en quelque sorte, des transferts familiaux, dans les groupes auxquels... C'est-à-dire que ça vient quand même en seconde main par rapport à ce qui se joue dans la famille. Bien que ces groupes ne soient pas des familles. Là aussi, je n'accepte guère la formule sur laquelle le groupe est comme une famille. Le groupe est une famille. S'il est comme une famille, c'est à certaines conditions qui sont précisément celles du transféré. Alors, ce que j'introduis dans la première question, dans ma réponse à la première question, c'est pas seulement la notion du transfert comme mouvement dynamique de déplacement. C'est aussi, c'est à Vallabrega que nous devons cette notion de qu'est-ce qui est transféré, le transféré. Est-ce qu'il y a de la matière psychique qui est spécifiquement transférée en thérapie familiale par rapport à ce qui est transféré dans la cure, par rapport à ce qui est transféré dans les groupes. Le transféré, c'est quoi? C'est ce qui s'est noué en rapport avec cette excitation, avec les fantasmes qui, à la fois, l'entretiennent et peuvent la calmer, et qui est en rapport avec les mouvements de vie et de mort associés aux fantasmes ou aux événements traumatiques de maltraitance qu'il a pu être subi dans le couple ou entre le couple parental ou le parent, un parent. Cette notion, je vois quand Gérard est parti, de parent confus me semble être également une configuration très spécifiquement, formant très spécifiquement le transféré dans le groupe familial. Il est retransféré dans des groupes. Voilà. Alors, comment entendre cela et comment. Quelle est notre disposition d'écoute? Oui. Notre disposition d'écoute, elle est nécessairement en rapport avec. Non seulement la capacité de comprendre, d'accueillir, d'héberger les mouvements dynamiques de transfert et son économie propre, mais aussi les contenus transférés. C'est-à-dire que nous sommes constamment, y compris dans les groupes, mais peut-être plus spécifiquement dans cette situation où le transfert se joue en première instance, en quelque sorte, ce matériel transféré, en relation avec nos propres complexes familiaux, au sens où Lacan décrivait les complexes familiaux comme intégrants.
Bien sûr.
Mais j'ai tendance à définir le contre-transfert comme étant justement ce qui est en rapport, ce qui nous met en rapport, et ce dont nous pouvons faire une élaboration grâce au travail de l'intertransfert. Très brièvement, alors, effectivement, les émergences traumatiques sont les réémergences traumatiques telles qu'elles réapparaissent dans le champ contre-transfert ou transférentiel, y compris chez les thérapeutes, et sans doute une des voies les plus remarquables pour avoir accès à ces failles dans le cadre, à ces collusions. Et effectivement, je laisse ouverte la question que j'ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites, vous leur reprenez cette question, lorsque vous énoncez l'appel au rêve, dans cette dimension où l'appel au rêver, l'appel au désir de rêver, renvoie d'une manière ou d'une autre au berceau dans ce qu'il comporte de dimension incestuelle.
Ma question, c'était aussi quand l'analyste, comme hier, nous a montré que c'était à ce moment-là qu'il pouvait rêver. C'est ça qui était très passionnant.
C'est fait pourquoi le rêve?
J'insistais sur la richesse.
Ça sert à quoi?
Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de poursuivre ces échanges. Et j'en suis tout à fait désolée, mais il y a des impératifs de cadre que nous devons respecter. Tout ce qui vient d'être abordé là, quand même, nous dit bien combien l'approfondissement des questions concernant la question des alliances inconscientes est importante. Parce que la question du transféré, comme la question, en effet, de ce qui fait traumatisme, a à voir avec ce qui est en jeu dans les alliances inconscientes nouées au moment de la mise en place d'un travail thérapeutique, qu'il soit individuel, groupal, familial. Voilà, merci beaucoup. Nous allons reprendre à 11h15. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que des enregistrements des conférences sont disponibles au stand de Congrès Minute à côté de la librairie. Voilà. Merci de votre attention.
très important de voir qu'il y a une polyphonie dans la pratique, dans le groupal et dans toute cette résonance, pour qu'eux-mêmes puissent avoir accès à une amélioration aussi de leur reprise.
Mais tout à fait.
Elles ne se fichent pas sur.
Tout à fait. C'est ce qui rend nécessaire.